Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, c'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pendant une heure d'émission en français. Alors le mardi, vous le savez, c'est le jour où on fait le point sur l'actualité politique de la semaine en Australie avec Patricia Meunier. Et aujourd'hui, elle revient sur le vaste coup de filet mené par la police ces derniers jours dans des filières djihadistes à Sydney. Christophe Mallet, lui, nous fera un compte-rendu détaillé des dernières nouveautés dans le domaine sportif. Et puis, en fin d'émission, on discutera avec Pierre-André Humbert, l'ambassadeur de France en Australie, qui nous parle des liens de la France avec les peuples premiers et des nombreux contacts établis au cours de l'histoire entre des explorateurs français et certaines nations aborigènes. Mais avant de nous plonger dans le passé, place au présent, c'est l'heure du journal. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 30 avril 2024. Le Premier ministre Anthony Albanese est aujourd'hui à Alice Springs dans le territoire du Nord pour faire le point sur les mesures adoptées dans cette ville pour endiguer la délinquance, en particulier la délinquance des adolescents. Et puis, à peine un an après sa création, la compagnie aérienne à bas coût Bonza semble déjà à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Et puis aux États-Unis, deux anciens rivaux ont finalement décidé de s'allier. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé qu'il apportait son plein soutien à Donald Trump dans la course à la présidentielle. Le chef du gouvernement australien, Anthony Albanese, est donc aujourd'hui dans la petite ville d'Alice Springs, dans le territoire du Nord, pour échanger avec les autorités locales et des associations, une quinzaine de jours après la levée d'un couvre-feu ciblant les mineurs qui aura duré 3 semaines. Ce couvre-feu, il avait pour objectif de mettre un terme aux éclats de violence et aux actes de délinquance, et ce après qu'un garçon de 18 ans a été tué dans un accident de voiture. D'après les échos qu'il en a eu, Anthony Albanese a indiqué que ce matin, que ce couvre-feu avait fait preuve d'efficacité.
And it seems to me it really has provided that circuit breaker. Just like last year, the decision that was made about alcohol was positive as well, had a positive impact. We need to not be ideological about this. We need to look at what works. Yes. And if it works, we're up for it. It's as simple as that.
Le 000, le numéro à appeler en Australie en cas d'urgence, va être renforcé pour faire en sorte que, quels que soient les problèmes que peuvent rencontrer les différents opérateurs téléphoniques, ils fonctionnent en toutes circonstances. Sa fragilité avait en effet été mise au jour en novembre dernier. Une panne géante chez l'opérateur Optus avait ainsi privé près d'une personne sur trois en Australie de téléphone et d'internet, et des milliers d'appels à ce numéro 000 n'avaient pas pu aboutir. Michelle Rowland, la ministre des Communications, promet ainsi une supervision renforcée de l'accès aux numéros d'urgence.
We will be implementing the recommendation to establish a custodian of the 000 service. This will initially be led by the Telecommunications Industry Ombudsman, who has wide consumer confidence, but also a strong knowledge of the telco sector.
Et en marge du déplacement d'Anthony Albanese à Alice Springs, les oreilles des travaillistes sifflent très fort aujourd'hui. Ils sont accusés de laxisme pour ne pas avoir su remettre en prison les quelques 150 détenus relâchés il y a quelques mois à la suite d'une décision de la Haute Cour de justice qui avait estimé que la détention indéfinie était illégale, une situation dans laquelle se trouvaient donc une centaine environ de ressortissants étrangers ayant eu maille à partir avec la justice, mais qui par ailleurs étaient inexpulsables, soit parce que apatrides, soit parce que menacés de mort dans leur pays d'origine. Il se trouve que l'un des hommes libérés de cette manière ferait partie d'un groupe de trois hommes arrêtés tout récemment par la police à Perth pour le cambriolage et l'agression d'un couple de personnes âgées. Un drame qui aurait pu être évité selon la sénatrice indépendante Jackie Lambie, c'est ce qu'elle a expliqué sur la chaîne Nine.
Well, they broke their curfew, so that would have been the first warning. They should have been put behind bars. They broke the agreement that they had with our court system, whether they've got a monitoring anklet bracelet on or not, which would have been good if they had, but still that will not stop some of them. You won't get there quick enough before they can pull that door down. But seriously, if you'd already broken that curfew, why is he out in the street?
La tuile ce matin pour des centaines de passagers de la compagnie aérienne Bonza qui ont découvert en arrivant dans les aéroports de Melbourne, Avalon, de la Gold Coast et de la Sunshine Coast que leur vol avait tout simplement été annulé. Cette compagnie aérienne créée en janvier 2023 et basée sur la Sunshine Coast avait déjà supprimé une partie des itinéraires qu'elle proposait 6 mois seulement après son lancement. Aujourd'hui, le PDG Tom Jordan a indiqué dans un communiqué que des discussions sur la viabilité de l'entreprise étaient en cours. Pour sa part, l'Australian Financial Review a révélé aujourd'hui que les 8 avions utilisés par cette compagnie aérienne avaient été saisis par ses créanciers. Malgré tous les noms d'oiseaux dont il a été affublé par l'ancien président américain, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, que Donald Trump a ainsi notamment surnommé « Meatball Ron », a annoncé qu'il allait soutenir le candidat républicain dans la course à la présidentielle. Les deux hommes se sont rencontrés hier à Miami. Et c'est pour Donald Trump un soutien de poids puisque Ron DeSantis dispose d'un important réseau de donateurs. Explication David Thompson pour RFI.
Fini les insultes, les surnoms moqueurs et les attaques. Ron DeSantis accepte de rentrer dans le rang 4 mois après son humiliation électorale par Donald Trump qu'il espérait détrôner durant la primaire républicaine. Au lieu de cela, le gouverneur de Floride devrait faire campagne pour l'ancien président. C'est ce soutien qui s'est négocié durant cette rencontre de plusieurs heures dimanche soir à huis clos dans un hôtel de Miami. Selon ses proches, DeSantis aurait accepté de déployer son puissant réseau de donateurs au service de la campagne Trump. Cette détente était importante pour les deux hommes. Pour Trump, d'abord, qui doit combler son retard dans les levées de fonds face au candidat démocrate Joe Biden et qui doit aussi convaincre les électeurs de son ancien rival numéro 1 à droite de le soutenir après leur lutte fratricide. Quant à Ron DeSantis, qui sort très affaibli des primaires républicaines, difficile pour lui d'imaginer un avenir politique sans le soutien de Trump. Plus que jamais l'homme fort de la droite américaine, ce qu'il reconnaissait lui-même dans une vidéo postée juste avant leur rencontre. Il est clair, dit le gouverneur de Floride, qu'une majorité des électeurs des primaires républicaines veulent donner une nouvelle chance à Donald Trump. Les démocrates, dit-il, utilisent tout leur arsenal judiciaire pour l'attaquer. David Thompson, Miami RFI.
À l'instar d'autres pays d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande est actuellement frappée par une vague de chaleur infernale. Il a ainsi fait jusqu'à 44 degrés hier dans la capitale, Bangkok, et face à ces températures démentielles, les premiers affectés sont d'abord les personnes âgées, ceux qui travaillent à l'extérieur, et ceux qui sont trop pauvres pour avoir accès à la climatisation. On va retrouver Carole Izou à Bangkok pour son reportage réalisé pour Radio France Internationale.
Au marché de la lumière de la lune, près de la rivière Chao Phraya à Bangkok, Nichapat tient un stand de légumes. Depuis quelques jours, la chaleur habituelle en cette saison est devenue véritablement insupportable, ce qui rend le travail difficile et menace aussi ses revenus et ceux de sa famille.
Il fait tellement chaud, on n'a jamais connu ça. On monte à 42, 43, 44 degrés. À Bangkok et dans les provinces, c'est fou. Du coup, mes légumes pourrissent plus vite. J'essaie de les asperger d'eau, mais ça peut aussi les abîmer. Donc on perd de l'argent.
Si la chaleur affecte tout le monde, elle frappe plus durement les plus fragiles, les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies chroniques et les plus pauvres, qui n'ont pas accès à l'air conditionné et doivent souvent passer de longues heures à l'extérieur, vendeurs ambulants, chauffeurs de moto-taxi. Dans les campagnes, la canicule et la sécheresse menacent les récoltes et les revenus des agriculteurs. Dans les villes, la consommation record d'électricité due à l'air climatisé apporte un soulagement aux classes moyennes tout en contribuant à la hausse des températures extérieures. Carole Izou, Bangkok, RFI.
Jusqu'où s'étendent les tentacules de la Russie en Allemagne? C'est la question qui se pose outre-Rhin alors que la tête de liste pour les élections européennes du parti d'extrême droite AfD est accusée par les services tchèques de participer à un réseau de propagande russe. L'an dernier, déjà un officier de l'armée allemande avait été condamné à de la prison pour espionnage au profit de Moscou et hier, le procès d'un autre haut gradé s'est ouvert à Düsseldorf. On y retrouve Pascal Thibault. Pour RFI.
L'accusé explique comment la vaccination Covid et des séquelles ont perturbé son équilibre psychique. Pour ce militaire de carrière, l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 2 ans ne constitue pas une atteinte au droit international. Thomas H. reproche aux pays occidentaux de ne pas avoir mis des négociations de paix en avant. La livraison d'armes lourdes à l'Ukraine a constitué pour lui une ligne rouge. Le quinquagénaire craint une guerre nucléaire. Le collaborateur du principal service informatique et logistique de la Bundeswehr, chargé notamment des équipements militaires, copie des données sensibles, grave des CD et les dépose dans la boîte aux lettres du consulat russe à Bonn. Objectif, fournir à la Russie un avantage militaire. Faute de réponse, il prend ensuite contact avec l'ambassade russe à Berlin. Ces démarches restent sans réponse, mais le parquet estime que les informations transmises à Moscou étaient sensibles. L'officier avait par ailleurs pris contact avec le parti de gauche, Die Linke, avant de déposer une demande d'adhésion, rapidement approuvée l'été dernier, auprès du mouvement d'extrême droite AfD. Le procès doit durer jusqu'à fin juin. L'officier de la Bundeswehr risque 10 ans de prison. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Peut-être un nouvel espoir de trêve à Gaza dans le cadre de négociations se déroulant actuellement au Caire. Israël aurait proposé un cessez-le-feu de 40 jours et la libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange de celle des otages détenus par le Hamas depuis les attaques du 7 octobre. Une proposition à laquelle le mouvement islamiste doit répondre et qu'il devrait saisir d'après Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui a qualifié cette proposition israélienne, je cite, d'extrêmement généreuse. Il est arrivé en France hier, Félix Tshisekedi, le président réélu en fin d'année dernière de la République démocratique du Congo, va être reçu aujourd'hui à l'Élysée par Emmanuel Macron. Plus tard, au cours de la même journée, il participera à un forum organisé au ministère de l'économie afin de renforcer les liens entre Paris et Kinshasa, des liens économiques et commerciaux déjà bien engagés d'après Antonine Kinzo, le directeur de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de République démocratique du Congo.
Je devrais dire qu'il y a une évolution dans les relations économiques entre la RDC et la France. Je vais vous donner quelques chiffres. 46 projets agréés au cours des investissements entre 2003 et 2022. 806 millions représentent les 46 projets. Je parle de 20 ans. Mais c'est 20 ans. C'est uniquement 20 ans. Et 20 ans, c'est énorme par rapport à ce qui existe. Et aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a une volonté de la France au travers de Proparco avec 500 millions qui devraient normalement être générés et injectés en RDC entre 2021 et 2025. Ça, j'appelle ça une évolution. Et aujourd'hui, je suis en train de noter que il ne vient pas seulement ici en France, quand je parle de l'île, c'est mon président de la République, le chef de l'État, en disant que nous sommes simplement en train de vous rendre l'appareil. Vous êtes venu en RDC, mais aussi pour dire que nous avons besoin que des opérateurs économiques français puissent investir avec des opérateurs économiques congolais dans une optique de partenariat gagnant-gagnant.
C'était donc le Congolais Anthony Nkinzo au micro de Bruno Faure pour RFI. Pour terminer ce bulletin, on jette maintenant un petit coup d'œil à la météo du jour en Australie qui est globalement assez maussade. Le temps est en effet marqué par des averses ce mardi à Sydney où il fait 22 degrés, à Perth également où le thermomètre affiche 25, tout comme d'ailleurs à Brisbane. Mais bizarrement, pas à Melbourne. À Melbourne, aujourd'hui, il ne pleut pas. Il fait 16 degrés et malgré un temps nuageux, eh bien, on devrait éviter d'être mouillé. Pour chercher le soleil aujourd'hui en Australie, en fait, il faut aller dans le top end. Un grand ciel bleu est en effet attendu aujourd'hui à Darwin, où la température va monter jusqu'à 35 degrés.
Journal des sports, et on débute avec du football et le sacre de champion pour le Paris Saint-Germain, 10e sacre en 12 ans pour l'équipe donc de la capitale. Et sur ce sujet, on écoute Antoine Grenier pour RFI.
Un titre à distance grâce à la défaite de Monaco à Lyon, 3-2, 10e titre en 12 ans pour le Paris Saint-Germain. Et l'ancien défenseur du PSG dans les années 90, Eric Rabessandratanade, pour lui, ce sacre n'a rien de surprenant.
Ouais, c'est logique. Je rappelle quand même que t'as une seule défaite sur tout le championnat, ce qui est pas arrivé très souvent du côté parisien. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine régularité. Il y a 10 matchs nuls dans ce championnat. Évidemment que voilà, Paris forcément sortait du lot par rapport à tout ça, et puis encore plus parce que la gestion humaine de cet effectif a été très très bonne. Luis Enrique a aussi fait des choix et ça n'existait pas avant au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, bah, c'est plus le cas. Et puis bah, on se rend compte que collectivement, on arrive à concerner tout le monde. On arrive à avoir un jeu d'équipe qui est quand même vachement plus intéressant qu'au début de la saison. Il y a plein de choses qui sont positives et surtout une marge de progression qui est importante. Donc ça, c'est vachement intéressant.
Eric Ramensandvratana, donc l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Alors on écoute également Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour lui, tout est au beau fixe dans le club.
Nous abordons cette fin de saison dans un contexte très positif. Nous vivons un moment splendide. Presque tous les joueurs sont aptes, à l'exception de Presnel Kimpembe et Sergio Rico. Quant aux autres, ils sont tous disponibles. Ils ont tous des chances de jouer. Nos supporters sont heureux. Et le club a beaucoup d'ambition pour réaliser quelque chose de spécial. C'est très stimulant, cela nous motive beaucoup. Et nous allons nous battre pour atteindre tous nos objectifs.
Luis Enrique, donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Les résultats de cette 31e journée, Nantes et Montpellier font match nul un partout. Je vous le disais, donc on l'a vu, Le Havre fait match nul contre le Paris Saint-Germain, 3 partout, mais le Paris Saint-Germain tout de même champion. Lille bat Metz sur le score de 2-1. Toulouse bat Lorient sur 2-1 également. Clermont qui bat Reims sur le score de 4-1. Nice qui est allé à Strasbourg en Alsace battre donc le club strasbourgeois sur le score de 3-1, Lyon bat Monaco 3-2, Brest bat Rennes 5-4 et Marseille bat Lens sur le score de 2-1. Au classement, le Paris Saint-Germain est donc champion, 70 points, deuxième Monaco avec 58 points, Brest est troisième, 56 points, ils sont assurés d'être européens, les Brestois, c'est une super performance pour le club breton. Lille est quatrième avec 55 points et Nice est cinquième avec 51 points. En bas de classement, Metz est 16e avec 29 points, Lorient est 17e avec 26 points et Clermont, malgré cette large victoire, eh bien, est toujours dernier, 18e et lanterne rouge de ce championnat avec 25 points. Du côté féminin, il y avait une demi-finale de Champions League entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Victoire des Lyonnaises. Les Lyonnaises seront donc en finale de la Champions League face au Barça. Ce sera le 25 mai. On écoute l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Sonia Bonpasteur.
Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont de belles équipes. De toute façon, arrivé à ce niveau de la compétition, sur une finale, vous avez forcément de belles équipes, de beaux clubs. Pour l'instant, on est surtout sur le fait de savourer la performance qu'on vient d'effectuer, d'atteindre cet objectif d'aller en finale. Et puis, il nous reste encore un petit peu de temps pour préparer, se projeter sur Barcelone. Mais voilà, je pense que, comme ça l'a été là sur les demi-finales, en tout cas les demi-finales franco-françaises, j'espère que ce sera aussi une belle finale pour le développement toujours du football féminin.
Voilà, donc je vous le disais, finale de cette Champions League Lyon contre le Barça, ce sera à Bilbao et ce sera le 25 mai. Allez, un dernier mot donc de sport pour ce journal. On connaît le premier porteur de la flamme olympique en France sur l'Hexagone. Ce sera Florent Manaudou. Il a été choisi donc par le comité olympique. La flamme est en transit depuis la Grèce jusqu'à Marseille, où elle arrivera d'ici quelques jours. Tony Estanguet nous parle donc de Florent Manaudou. À noter que sa sœur, Laure Manaudou, grande championne elle-même, était la première porteuse de la flamme à Athènes. Donc un beau passage de témoin entre frères et sœurs. Les explications du choix de Florent Manaudou par Tony Estanguet.
C'est un athlète d'exception, quadruple médaillé olympique, champion olympique à Londres. Il fait partie des très rares Français à avoir été capable d'être médaillé sur 3 Olympiades consécutives dans l'une des disciplines reines des Jeux, le 50 mètres nage libre. Florent, il nous accompagne depuis la phase de candidature. Il a été régulièrement présent sur tous nos événements. Il est allé dans les écoles et il est monté à Paris plein de fois pour contribuer à l'énergie et à la réussite de cet événement. Il a décidé d'être capitaine du relais de la flamme. Et donc pour moi, ça faisait beaucoup de sens qu'avec sa sœur, qui était la première relayeuse ici en Grèce, Florent puisse être le premier relayeur à Marseille.
Tony Estanguet, donc, pour cette flamme olympique qui arrive très prochainement en France. C'est tout pour le journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS, bien entendu.
Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français et il est 13h28. Tout de suite, c'est la semaine politique vue par notre consoeur Patricia Meunier. Elle revient aujourd'hui sur les arrestations menées à Sydney de plusieurs personnes soupçonnées d'être affiliées à des mouvances terroristes.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Et retour sur la semaine politique maintenant dans notre émission. L'attaque au couteau d'un évêque a déclenché une vaste enquête qui a conduit à des descentes de police massives à Sydney. C'était la semaine dernière. Plusieurs garçons, dont l'attaquant de Wakeley, ont été accusés de faire partie d'un réseau terroriste. Les explications de Patricia Meunier.
Le terrorisme a fait son retour en Australie. Le lundi 15 avril, un adolescent de 16 ans, armé d'un couteau, a blessé 4 personnes dans une église à Wakeley, une banlieue dans l'ouest de Sydney. Très vite, les autorités ont qualifié cet acte de terroriste. Le week-end avait déjà été agité la veille par une autre agression à l'arme blanche à Sydney, dans un centre commercial. Le bilan est de 6 morts, dont 5 femmes. La tuerie a été commise par un homme atteint d'une maladie mentale. À Wakeley, l'attaque sur un prêtre, Marie-Emmanuel, un représentant de l'église apostolique assyrienne, a également provoqué des émeutes. On y retrouve dans ce quartier des minorités chrétiennes originaires d'Irak, de Syrie ou encore du Liban. Des dizaines de policiers ont été blessés et plus d'une centaine de véhicules endommagés. Peu après ces drames, la police australienne a lancé une grande enquête qui a conduit à des descentes de police massives à Sydney. Elle a ainsi arrêté, depuis mercredi passé, plusieurs adolescents. Tous sont accusés de suivre une idéologie extrémiste violente. Les jeunes faisaient partie d'un réseau dans lequel on retrouve notamment le garçon de 16 ans accusé d'avoir poignardé l'évêque. 4 garçons arrêtés lors des perquisitions de mercredi dernier ont été accusés de complot en vue de préparer un acte terroriste. 2 autres, âgés de 14 et 16 ans, ont été accusés de possession de matériel extrémiste, notamment de vidéos de décapitation. Plus de 400 policiers ont exécuté 13 mandats de perquisition dans des propriétés du sud-ouest de la ville. On écoute le commissaire adjoint de la police de Nouvelle-Galles du Sud, David Hudson.
Involving more than 400 police of the AFB and New South Wales police officers. 13 search warrants have been executed across southwestern Sydney, the execution of those warrants is continuing.
La menace était considérée comme réelle et le risque inacceptable pour la population de Nouvelle-Galles du Sud. On écoute encore David Hudson.
We will allege that these individuals adhere to a religiously motivated violent extremist ideology. These investigations have been progressing since the incident. It was considered that the group subject of our attention posed an unacceptable risk and threat to the people of New South Wales, and our current purely investigative strategies could not adequately ensure public safety. As a result, we determined that we needed to escalate our activities and that overt action was required.
Pour sa part, la commissaire adjointe de la police fédérale australienne, Chrissy Barrett, a déclaré que les enquêteurs n'avaient trouvé aucune preuve de cible spécifique. Elle a déclaré que l'opération de police n'était pas liée à l'Anzac Day, le jour qui rappelle les morts australiens à la guerre.
Now I know that some of this will be confusing and confronting for some Australians and parts of our community. Senior members of the AFP and our community liaison teams have today held discussions with faith communities who we value and respect. Our relationships are very important and we never take them for granted. I want to be very clear. We target criminality and not countries. We target radicalization, not religion.
L'Australie s'est aussi retrouvée opposée au réseau social X. Les autorités reprochent aux médias sociaux d'avoir attiré une foule de 2000 personnes vers l'église après l'attaque qui a conduit à une émeute. Les deux parties ne sont pas d'accord sur la diffusion des images, sur l'attaque au couteau. Le régulateur australien a ordonné la semaine passée à la plateforme de supprimer les vidéos, une action contre laquelle son patron Elon Musk se bat. La querelle risque de se poursuivre.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On va maintenant retrouver notre camarade Christophe Mallet. Il s'est entretenu tout récemment avec le nouvel ambassadeur de France à Canberra, Monsieur Pierre-André Humbert. Et ensemble, il nous parle des relations historiques mais aussi contemporaines de la France avec les peuples premiers d'Australie.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
C'est avec grand plaisir que l'on a l'ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Humbert, dans les studios à nouveau avec nous. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois à SBS.
Bonjour Christophe, c'est toujours un plaisir.
Merci. Alors cette fois-ci, on va parler des peuples premiers et de ce qui se passe aujourd'hui autour de la diplomatie française et de l'intérêt qu'il peut y avoir autour des peuples premiers et de cette relation qui, au final, elle est très longue. Elle va même au-delà de la création du pays, de l'Australie. La France a été présente sur les terres australiennes depuis très 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 longtemps.
C'était effectivement un point qui est à la fois peu connu, mais qui témoigne de l'attachement profond et des relations entre la France et l'Australie depuis plus de deux siècles, puisque on connaît souvent l'expédition Baudin en 1800, mais on connaît peut-être moins. Bon, il y a eu l'expédition Louis de Saint-Aloard, il y a eu aussi celle très importante de la Pérouse, et puis peut-être plus encore signifiante, en tout cas j'ai eu l'occasion personnellement de l'éprouver, qui est celle de Bruny d'Entrecasteaux, qui en 1791 est arrivé sur les côtes de la Tasmanie à la recherche de l'équipage de la Pérouse, qui avait disparu en 1788, et qui a eu, comme beaucoup d'expéditions, en fait, qui avait une vocation scientifique de découverte et de rencontre. Et donc, il y a eu pendant trois ans des échanges très soutenus avec les Palawas en Tasmanie, qui ont donné lieu à la fois à des études, à un matériel absolument extraordinaire qui a été collecté en termes d'archives, notamment dans les archives de ces expéditions, un dictionnaire de près de 500 mots, qui est quelque chose
incroyable.
D'original. Nous en avons fait, puisque les archives de des expéditions d'Entrecasteaux, c'est plusieurs milliers de pages. Plusieurs centaines de pages traitent de l'Australie. Et en son sein, donc on avait un matériel peu exploité. Et je dois dire que lorsque la ministre des Affaires étrangères est venue en décembre, nous avons remis une copie numérisée à l'Australie de ces archives qui vont être traduites et puis servir pour beaucoup de chercheurs à développer la connaissance des peuples premiers depuis de cette époque de 1791-1794.
Parce qu'à cette époque-là, la France n'est pas arrivée ici dans un esprit colonialiste, contrairement à d'autres pays qu'on ne va pas nommer. Et la France est vraiment dans une optique d'expédition, de comprendre le monde qui est aux alentours, au-delà des mers.
Sur l'expédition d'Entrecasteaux, l'expédition Bodin, c'est d'abord une expédition comme celle de la Pérouse. Mmh. Ce sont des expéditions qui visent à repérer, à explorer ces continents du Pacifique, ces îles, etc., qui sont encore inconnus, les cartographier, en ramener en fait une compréhension de la faune, de la flore, des habitants qui y sont. Et donc il y a aussi des débats entre scientifiques et navigateurs, oui, au sein même de l'expédition. À chaque fois, c'est toujours très intéressant. Mais ce qui a permis aussi de ramener une description de la société et des rencontres qui sont parvenues jusqu'à nous, avec des objets parfois retrouvés dans des stockages qui n'étaient pas les bons et qui permettent de redécouvrir et d'initier aussi à travers cela un travail de mémoire, car ce qui est important, c'est que le passé éclaire l'avenir et nous aide à nous projeter vers le futur. Alors nous avons d'ailleurs il y a un an commencé à la mise en place d'une commission franco-australienne sur la restitution des restes humains, en le faisant selon la volonté des parties, y compris les populations aborigènes, pour que cela se fasse. Donc c'est en cours. Donc ce sont, je veux dire, le passé éclaire toujours le présent. On dit souvent le passé saisit le présent. Et pour nous, c'est extrêmement important de travailler ensemble pour le futur, mais en s'appuyant sur nos racines communes.
Et c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu en arrière, il y a eu en France, il y a aussi des choses qui sont devenues presque tellement communes qu'on pense que c'est vraiment des choses françaises. Si vous êtes dans le sud, si vous êtes vers Nice ou Monaco d'ailleurs, le mimosa par exemple, le mimosa c'est une fleur qui vient d'ici, qui a été ramenée sous Napoléon pour Joséphine, je crois. Ça pullule dans le sud. Pourtant, il n'y a pas plus français que le mimosa. Et pourtant, c'est pas du tout français le mimosa à la base. Il y a plein d'exemples comme ça.
Oui, non, mais c'est cette mondialisation qui s'est construite par des navigateurs entreprenants qui ont ramené des plantes, qui ont parfois ramené un peu plus que des plantes. Enfin, ouais. Je veux dire, il faut aussi être capable de voir son histoire sans filtre, y compris dans ses aspects qui ont pu être plus négatifs. Mais en ce qui concerne les expéditions qui ont eu trait à l'Australie, elles ont été quand même majoritairement scientifiques et culturelles de découverte. Et je crois que c'est un élément qui est extrêmement important pour travailler ensemble aussi sur le futur et prolonger cette tradition d'échange qu'il y a eu. Et je dois dire, si je peux évoquer une anecdote, qui est, j'ai eu le plaisir d'aller avec Greg Hammond et d'autres universitaires sur les lieux du jardin botanique créé par l'expédition d'Entrecasteaux, donc à Recherche Bay en Tasmanie. Et je dois dire que nous sommes assis, nous avons à ce moment-là relu les descriptions des rencontres avec la population locale dans 1791. C'était un moment extrêmement fort d'émotion. Nous sommes repartagés finalement un peu des facsimilés de nos créations artistiques les uns et les autres. On s'est pris dans les bras parce qu'en fait ça nous est venu comme ça. Et je dois dire que c'est là où l'éclairage en fait du passé qui nous saisit était proprement présent. Et je me suis dit qu'en faisant cela, il fallait que nous donnions aussi un tour à notre coopération culturelle qui prenne en compte cette histoire et cette volonté de travailler avec l'ensemble des peuples d'Australie.
Est-ce que c'est dans des moments comme ça qu'on sent que vous faites partie d'un maillon, d'une chaîne, de la relation justement entre deux pays qui sont à la fois physiquement mais économiquement énormes, enfin c'est des pays très présents sur la place mondiale. Aujourd'hui vous êtes le maillon d'une chaîne qui a duré depuis des centaines d'années. Ça vous est venu ça à l'esprit quand vous étiez assis à Recherche Bay et que vous dites bon bah au final je fais partie de ça.
On se sent vraiment Oui, on sent physiquement. Enfin, juste, ouais. Ça paraît comme ça à la radio, dire sur un lieu, on se retrouve, il y a quelques vieilles pierres, etc. Dans ce lieu magnifique qui est Recherche Bay. Donc, d'ailleurs, du nom d'un des deux bateaux de l'expédition entre Casto. Donc, le bateau Recherche. Mais on se sent à ce moment-là un peu dépositaire de ce passé. Et donc, comme un maillon, eh bien, on se doit aussi de transmettre aux générations futures ce travail. Et si il y a eu ce moment d'amitié et d'échange et de découverte, il faut que dans notre action présente, on puisse aussi le faire perdurer. C'est le sens du travail que on souhaite initier avec les peuples aborigènes et notamment dans notre coopération artistique, culturelle, à travers la Fondation franco-australienne. Donc c'est un élément extrêmement important de notre action avec l'Australie.
Mais cette action, elle est présente depuis un bon moment. Si vous avez eu la chance, vous public, d'être allé par exemple à la Tour Eiffel, un des plus gros monument que vous voyez, c'est le musée des arts premiers, et il y a tout un toit qui est fait en art aborigène. C'est vraiment un échange, plus que justement la France qui vient redonner ou donner des leçons, ou etc. C'est vraiment un échange entre les deux pays, main dans la main.
Absolument, et on veut par exemple le domaine, nous organisons à l'ambassade une journée extrêmement importante d'études, de travail ensemble sur cette relation culturelle, notamment avec les aborigènes et la création artistique qui en découle. Et par exemple, nous aurons un artiste qui aura gravé deux arbres dans l'ambassade, ce qui est une première. Et ce même artiste a été invité et sera hébergé par le musée des arts premiers au Quai Branly pour graver à son tour aussi un arbre là-bas dans le musée. Donc vous voyez qu'en fait cette correspondance entre ce musée que vous évoquez, qui est absolument magnifique, et ce que l'on fait aussi à l'ambassade, se retrouve dans notre coopération culturelle pour faire vivre une tradition, la faire découvrir. Et puis toujours le souci, c'est on se tourne le passé parce que ça nous éclaire sur le futur. C'est comment est-ce qu'on va mieux travailler ensemble et faire découvrir à une audience et à un public plus large l'inspiration, la création artistique que l'on trouve et qui est extrêmement foisonnante dans notre pays de résidence, l'Australie.
Et maintenant, on retrouve Christophe Mallet et l'ambassadeur Pierre-André Humbert pour écouter la suite de leur échange autour des peuples premiers.
Cette relation, elle est emblématique à plein de niveaux. Hein. On sait que il y a eu des hauts, il y a des bas. On va pas revenir sur les méandres de l'action autour des sous-marins, etc. Mais il y a aussi des côtés positifs dans cette relation. Il y a deux Français qui ont été vraiment des héros récemment en Australie, qui ont été mis vraiment en avant. Vous avez pu les rencontrer ou en tout cas échanger avec eux. Ça, sans dire que ça fait partie de ça, mais c'est les histoires positives, même au sein d'un drame. Tout ça, c'est des histoires positives que la France a le droit d'être fière, d'ailleurs, de ces moments-là.
En tout cas, je dois dire que nos deux concitoyens ont eu une action absolument admirable,
absolument, ouais.
Comme d'autres citoyens australiens ont eu. Hein, c'est dans ces moments-là que se révèle l'âme humaine et la volonté, en fait,
au-delà
des pays. En fait, c'est une réaction d'humain face à une violence. Moi, je peux pas dire ce que à titre personnel j'aurais pu faire. Bah, il se trouve que eux, ils ont pris leur courage à deux mains, comme d'autres, et ils sont intervenus, et ça a sans doute permis d'éviter aussi d'autres morts. Donc, en fait, on les en remercie. Nous sommes très sensibles aussi à l'attention qu'a porté l'ensemble des Australiens, le gouvernement, le Premier ministre à leur endroit, et notre ministre des Affaires étrangères, notre gouvernement, a eu l'occasion aussi de les féliciter, de les remercier de leur action. Et par ailleurs, ils ont aussi le souhait de prendre cet acte comme un acte aussi de participation citoyenne, mais vraiment avec la modestie
absolument,
qui s'y est.
Nous, on les a eus à l'antenne. On a fait 20 minutes d'interview avec eux. Et ce qui était marquant, c'est le côté humble des choses. Ils n'ont pas du tout voulu en faire trop. Et ce côté aussi, il nous a parlé d'un moment où il dit, Damien, il dit, ça fait tellement longtemps que j'attendais cette résidence permanente, mais aujourd'hui, je ne peux pas la célébrer. Et j'aurais jamais cru que ce soit au terme d'un drame que j'allais l'avoir. Et qu'en fait, il a ce côté à la fois content, fier de ce qu'il a fait. Mais il y a quand même un goût très 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 amer derrière, en fait. Donc ce côté humble est très intéressant.
Et je ne sais pas, et on est dans la période de célébration des Anzac, c'est vraiment un élément extrêmement important, c'est que au fond, ce sont il n'y a pas d'événement plus dramatique que ce qu'a été la boucherie de la Première Guerre mondiale.
Ouais, tout à fait.
Je veux dire, c'est 15% des appelés en Australie décéderont directement, je ne parle même pas des blessés. Pour la France, ça monte à 18%. Ce sont des générations entières qui ont été sacrifiées, qui ont fait le sacrifice de leur vie. Et pourtant, ce qu'on célèbre à travers ça, je veux dire, c'est justement l'héroïsme quotidien, simple, la dévotion, en fait, finalement, de ces jeunes générations, et que leur courage, leur investissement doivent éclairer aussi notre comportement d'aujourd'hui. Et je vois beaucoup de correspondances aussi dans ces actes courageux, où, en fait, et nous sommes remplis d'histoires absolument de magnificence humaine à travers des temps dramatiques.
Ouais, donc, tout à fait.
On a besoin aussi de personnages comme eux, qui nous rassure sur l'âme humaine, nous fait voir aussi le futur avec optimisme, car même dans les temps difficiles, on trouve cette lueur d'humanité et qu'il nous appartient de faire vivre.
Et sur la jeunesse aussi, hein, parce que c'est vrai que vu d'un certain âge, on peut aussi avoir certaines visions sur la jeunesse et de voir que la jeunesse a aussi des valeurs comme ça, c'est toujours un côté intéressant.
Non, mais si... ça, Christophe, c'est parce que vous comme moi, on vieillit, donc on a l'impression que c'est ça. Mais quand on était jeune, on devait sûrement être pareil.
Ça devait être ça, c'est vrai qu'on a la barbe un peu plus grise aujourd'hui. Mais si on revient sur les peuples premiers, c'est intéressant que la France justement s'intéresse, voilà, pour faire un pléonasme, s'intéresse à ça, parce que il y a eu toutes des questions autour de l'Australie, de l'intégration, etc. Mais aujourd'hui, c'est important pour la France de focaliser sur les vraies racines du pays et de vraiment remettre en valeur ce que la France a pu faire à l'époque pour rentrer en connaissance, pour rentrer en contact avec ce peuple. Pas encore une fois, pas pour forcément le coloniser, mais pour rentrer en contact et apprendre par rapport à ce peuple. C'est très important que cette relation existe encore aujourd'hui.
C'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, la journée du 2 mai, que j'ai souhaité organiser à l'ambassade de France, aura une vocation à la fois d'écoute et d'échange d'artistes aborigènes, d'universitaires, pour que on rentre en fait progressivement, on s'immerge dans ces cultures, que l'on aille vers une intercompréhension mutuelle, puis d'imaginer ensemble les pistes de travail en échange culturel. On a évoqué le Quai Branly, mais il y a beaucoup d'institutions qui souhaitent aussi travailler avec des artistes. Ça sera sans doute sous l'égide en grande partie de notre fondation franco-australienne présidée par Myriam Boubouvier-Wiley. Et à travers ça, nous aurons finalement une finalisation, une reconnaissance de ce travail commun à travers un acknowledgement of the country que nous ferons pour la première fois à l'ambassade de France. Il était pour moi symboliquement extrêmement important d'avoir cet acte de reconnaissance, mais qui s'inscrivent dans un processus éclairé par nos amis et ces échanges profonds tout d'abord, puis qui s'inscrivent dans une dynamique de travail en commun.
Il sera fait en deux langues, l'acknowledgement of the country, ou que en français?
Non, absolument, dans les deux langues.
Dans les deux langues, ouais, d'accord. Okay. Donc ça, c'est aussi une marque de respect. Vous ne le faites pas qu'en français, vous le faites aussi intégration dans les deux langues.
Je dirais même dans les trois langues. Quand on se met.
D'accord, dans les trois langues. vous voulez rajouter autre chose sur cette relation, justement, et sur le... Parce que c'est, encore une fois, vous êtes un maillon de la chaîne, mais c'est aussi une nouvelle graine qui est mise dans un nouveau type de relation. La fondation, vous en avez parlé, qui a été créée assez récemment, et cette implication que la France a, justement, à mettre à la fois des moyens aussi derrière. C'est pas simplement on crée une association et ça va se passer comme ça. Il y a des vrais moyens financiers. Alors, c'est pas juste, juste des mots.
Sur cette fondation, c'est effectivement un des plus gros investissements en action culturelle extérieure de la France qui se verra en fait la fondation dotée par la France d'1 million d'euros, donc qui viendra ensuite être abondé par des partenaires philanthropes. Investisseurs australiens qui viendront aussi agréger des initiatives des institutions culturelles françaises et australiennes. Mais je dois dire, même au-delà, puisque cette fondation franco-australienne sur les échanges culturels a une vocation à s'adresser à l'ensemble de l'Indo-Pacifique. Et c'est là aussi que ce travail avec les populations aborigènes est important, car on voit bien qu'il y a un regain aussi de l'intérêt en fait de l'art, avec la triennale des arts qui a lieu cette année à Hawaï, la prochaine aura lieu à Nouméa. Donc on a un travail aussi dans tout l'Indo-Pacifique de réflexion, de travail sur ces cultures, sur la projection sur le futur, pour en faire quelque chose de vivant et que l'on puisse partager auprès des populations, aussi bien en Australie, et un gros travail sur l'identité est engagé en Australie, c'est le moins qu'on puisse dire. On a aussi ce travail à faire en France, on a toujours des leçons à apprendre aussi, quand on regarde les autres, parfois on se regarde soi-même de manière différente, et on y apprend beaucoup. Donc c'est aussi dans cette perspective, c'est un pays qui, l'Australie, qui a fait un pays d'immigration, aussi comme la France, qui s'interroge sur son identité, notre pays aussi, souvent s'interroge sur son identité. Et ce qui fait le vivre ensemble commun, ça passe aussi beaucoup par ce travail et ces échanges culturels. C'est le sens de cette action que notre gouvernement soutient et qui repose sur d'excellentes volontés comme tous ceux qui ont accepté de s'engager à travers cette fondation franco-australienne pour les échanges culturels.
Eh bien, merci d'être venu nous annoncer tout ça au micro de Radio SBS.
Un grand plaisir. Merci beaucoup.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau du grand Bob Sinclair, un morceau intitulé I Feel For You, un véritable classique de ce qu'on appelle la French Touch, un morceau sorti en 2000 sur le deuxième album du DJ, un album intitulé Champs-Élysées. Nous, eh bien, on se retrouve jeudi à 13h pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre appli audio préférée pour ne manquer aucune de nos émissions, interviews et reportages. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.